employés de 0,5%. Au pouvoir depuis 4 ans, Evo Morales, issu de la classe populaire, poursuit une politique de capitalisme d'État qui redistribue les richesses du pays vers les classes défavorisées.
Prenons le dossier du partage de la valeur ajoutée, le partage de la richesse. C'est quelque chose qui a été traité dans les colonnes du journal, c'est quelque chose que François Ruffin a évoqué dans l'émission « Là-bas, si j'y suis ». Comment est-ce que les deux grandes forces antagonistes de la société se partagent la richesse produite? Comment est-ce que c'est réparti entre le capital et le travail? Eh bien, on observe que, à peu près partout dans le monde, l'évolution de cette répartition est en faveur du capital à travers le monde. Eh bien, au Brésil, entre 1999 et 2009, la part allouée au salaire augmente de 3,6%. Donc, il y a des évolutions assez importantes. Est-ce que ça veut dire que la révolution a lieu et que le socialisme est advenu en Amérique latine? Non. D'ailleurs, certains s'en félicitent. L'intellectuel néolibéral bolivien Roberto Lacerna s'interrogeait récemment, je le cite, « Qu'est-ce qui a changé au cours des dernières années ?» Les dernières années, pour lui, c'est la période Morales. Il répondait, je le cite, « Beaucoup, si l'on observe le processus en termes de discours, de symboles, dans une perspective à court terme, mais très peu du point de vue structurel ou des tendances économiques et sociales dans une perspective à long terme. » Et il est vrai que, même s'il a été chahuté, le système, le modèle de l'économie de marché demeure en place en Amérique latine. Le régime de propriété est très rarement menacé. L'un des gros reproches que l'on fait au gouvernement latino-américain à l'heure actuelle, c'est celui du non-respect de l'environnement, de l'écologie. En effet, l'une des mesures auxquelles ils ont procédé, c'est la renationalisation des ressources naturelles. Or, des populations indigènes, des populations qui vivent aux endroits où sont exploitées ces ressources naturelles, des ONG, préoccupés par la protection de l'environnement, les accusent bien de procéder à la même spoliation des richesses naturelles que les gouvernements antérieurs. Et eux répondent « Oui, c'est vrai, on aimerait bien faire autrement, mais comment est-ce qu'on augmente le niveau de vie des populations sans toucher à ces richesses ?» Alors, pour conclure, on peut se poser deux questions, il me semble. La première question, c'est « Pouvait-il faire plus ?» Et je vais tenter d'y répondre. Mais il faut aussi se demander qu'ont fait les autres pendant ce temps. Alors, la première question, pouvait-il faire plus? Oui, certainement. Mais répondre oui implique de voir quelles auraient été les difficultés que soulevait une ambition, une radicalité plus importante. Ils auraient pu, par exemple, nationaliser l'ensemble de l'économie. Bon, ça, c'est un beau projet, mais nationaliser l'ensemble de l'économie implique de disposer de cadres, de personnes capables de prendre les rênes de grandes entreprises, autrefois pilotées par des ingénieurs qui ne sont pas forcément sensibles à une logique socialiste. En Bolivie, par exemple, la nationalisation des ressources naturelles, des réserves de gaz, a posé problème parce qu'il fallait pouvoir continuer à avoir accès à des technologies dont le pays ne dispose pas tout seul, pour lesquelles il a besoin, pour l'instant, de faire appel à des sociétés, des entreprises, souvent transnationales, qui, elles, maîtrisent ces technologies. Protéger l'environnement. Était-il possible de décider que, dorénavant, on n'allait plus exploiter les ressources naturelles? C'est ce qu'a tenté de faire le gouvernement de Rafael Correa en Équateur. Une zone particulièrement riche de biodiversité se retrouvait au-dessus de ressources naturelles importantes. Et le gouvernement a dit, très bien, nous prenons en charge 50% du coût de la protection de cette zone si la communauté internationale est disposée à nous verser l'argent correspondant à la richesse dégagée par l'exploitation. Le projet était discuté, de nombreuses promesses de versement de fonds ont été réalisées, aucun dollar n'est arrivé. Dans ces conditions, est-il possible pour un pays tout seul, de son côté, de décider qu'il renonce à la richesse qui correspond à ses ressources naturelles? Et puis, une rupture nette avec le capitalisme, certains y sont peut-être favorables, mais qu'est-il arrivé en Amérique latine lorsque certains dirigeants politiques ont tenté de les mener à bien? On pense par exemple au Chili de Salvador Allende. Et quelques semaines seulement après l'élection de Salvador Allende, au Chili, le conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger, déclarait, je le cite, « Je ne vois pas pourquoi nous devrions laisser un pays devenir marxiste simplement parce que sa population est irresponsable. » Donc c'est ce qui s'est passé. Le 11 septembre 1973, la Moneda, le palais présidentiel, était bombardé. Alors, le socialisme n'est pas advenu. Il était peut-être possible de faire plus. Il était peut-être délicat de faire plus. La deuxième question, qu'ont fait les autres pendant ce temps? Je n'y reviens pas. Je pense que vos auditeurs ont une petite idée sur la question et je crois que ça a été pas mal développé par Serge auparavant.
C'était l'émission mensuelle de Là-bas, si j'y suis avec le monde diplomatique. Merci à Serge Halimi, Franck Poupeau, Louis Humbert et Renaud Lambert. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos.